vous l'avez bien connu. Vous l'avez bien connu, une émission sans contrainte ni personne, vous l'avez bien connu, proposée par Ambroise Perrin. Épisode numéro 154. Inna Dimova, la bibliothèque des divas. Chers amis, bonjour. Alors, on m'a dit qu'il y avait des hommes dans la salle. Non, non, mais vous pouvez rester. Messieurs, messieurs, restez. Même si aujourd'hui, il n'y a que des femmes. Ah, nous sommes à l'amicale des femmes du Conseil de l'Europe à Strasbourg. Et ces dames viennent de créer un prix littéraire pour des nouvelles écrites par des femmes. Un prix organisé par la Bibliothèque des femmes qui rassemble 1500 livres écrits uniquement par des femmes. Mais en 2026, on lutte contre la discrimination. Nous sommes pour l'égalité des chances. Eh bien, j'ai appris que dans le club des femmes, il y avait aujourd'hui aussi des hommes. Oui, merci Madame la Présidente. Merci Inna Dimova. Bonjour Madame.
Bonjour monsieur, bonjour Ambroise Perrin, merci pour votre invitation.
Alors, cette amicale des femmes a été créée au Conseil de l'Europe en 1979. C'est à l'époque où les femmes n'existaient pas, c'est ça?
Cette amicale est effectivement créée en 1979 au sein de l'amicale femmes par 6 femmes. À l'époque, ces 6 personnes, je peux citer en fait le nom de la première présidente, Madame Liliane Dinolfi, avaient pour idée de rassembler toutes les épouses de fonctionnaires du Conseil de l'Europe qui étaient en majorité des hommes. Et l'idée, c'était de créer un lieu pour accueillir les nouvelles arrivantes à Strasbourg, pour créer un endroit, faire des activités ensemble, à s'amuser ensemble aussi, parce que c'était un objectif principal.
Et, est-ce que c'était l'époque des soirées tupperwares, du macramé, et c'était des dames de hauts fonctionnaires qui s'ennuyaient, alors on allait boire le thé ensemble, ou alors c'était des gens qui avaient fait aussi...
Je dirais pas qu'elles s'ennuyaient, je pense que c'était des femmes qui avaient... je sais que c'était des femmes qui avaient des fortes personnalités intellectuelles, beaucoup d'elles...
Qui avaient fait des études.
Oui, exactement, beaucoup
d'elles... Et c'était le mari qui était en fait le...
Voilà, elles ont juste suivi leur mari dans leur parcours professionnel, mais elles-mêmes avaient des engagements sociaux, intellectuels, une vie à part aussi. Et ils avaient juste décidé de créer un club des femmes au sein du Conseil de l'Europe pour développer des activités ensemble. Et d'ailleurs, la dimension intellectuelle de l'amicale femme existe dès le début. Le club littéraire de l'amicale femme était créé au tout début, ensemble avec la création de l'amicale femme. Alors, bien sûr, il avait des activités orientées vers les enfants, d'autres clubs, des activités purement... Voilà, pour s'amuser, pour partager de temps ensemble.
Ou des trucs pratiques, inscrire les enfants à l'école.
Mais voilà. Même, elles avaient créé une crèche à l'époque au sein du Conseil de l'Europe, de façon bénévole. Oui, 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 j'ai des photos, des témoignages, les archives le démontrent. Mm-hmm. Alors, des femmes engagées.
Oui, mais en 1979, il y avait quand même déjà, bon, c'était avant Catherine Lalumière, mais il y avait quand même déjà des femmes hauts fonctionnaires qui avaient des postes importants. Et elles avaient peut-être un monsieur qui s'ennuyait à la maison et qui s'occupait des enfants et qui faisait la cuisine le soir,
non ? Peut-être, je pense que c'était le cas. Les archives ne témoignaient pas, je ne peux pas en fait parler
dommage.
De première personne.
Mais alors ça, vous pourriez l'inventer, le
peut-être,
raconter
dans un roman
que vous mettriez
dans la histoire comme ça.
De la bibliothèque des femmes.
Oui, tout à fait, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée.
Écoutez, je veux bien m'appeler Ambroisine et vous écrire un roman, voilà. Oui. Mais alors, donc, vous êtes strasbourgeoise, donc vous aimez la tarte au fromage, donc vous êtes une vraie strasbourgeoise puisque vous êtes une juriste spécialisée dans la propriété intellectuelle. Et vous êtes strasbourgeoise depuis 20 ans. Hein, ça fait une vingtaine d'années que vous avez quitté la Bulgarie, on peut le dire, parce qu'on a compris à votre bel accent que c'est pas celui, c'est du Bas-Rhin, hein, vous, hein, votre accent, c'est pas le Haut-Rhin. Voilà, très bien. Et il y a 49 pays au Conseil de l'Europe.
Enfin, 46.
Enfin, il y a la Russie qui a été expulsée, et puis oui, c'était 47. Oui, c'est, voilà. Et bon, depuis l'Ukraine, hein, donc ça crée des tensions au Conseil de l'Europe. Mais est-ce que vous avez repéré actuellement, donc en 2026, des romans de femmes qui viennent des 46 pays?
Alors, pour faire un peu l'introduction justement des activités de la Bibliothèque européenne des femmes qui a été créée au sein de l'Amicale Femmes du Conseil de l'Europe en 2023.
Oui, donc c'est tout récent.
C'est tout récent, oui. C'était un peu en amont d'un événement aussi, d'un programme riche culturellement pour Strasbourg. Je parle de Strasbourg, capitale mondiale de livres. Alors, notre bibliothèque était créée avant. Nous avons eu aussi la fierté d'être labellisée et de faire des conférences dans le cadre de programmes culturels durant cette année. Et à cette occasion, nous avons lancé un appel auprès des représentations permanentes du Conseil de l'Europe à faire des dons de livres en multilingue. Nous avons reçu certains. Il faut dire qu'il y avait un événement particulier lié à l'Ukraine il y a 12 ans. C'était plus un marché caritatif. Et durant cet événement, nous avons tenu un stand avec des livres d'autrices de différents pays et les fonds en fait accueillis étaient versés au profit d'une action solidaire pour l'Ukraine. Nous en avons quelques livres en fait en ukrainienne.
Alors ces livres écrits par des femmes.
Oui.
Ils ne sont pas tous traduits en français ou en anglais ou en allemand ou en espagnol, qui sont les langues
non. Oui, il faut avouer qu'actuellement, la majorité des livres est effectivement en anglais, français et allemand. Il a un fond important en bulgare, parce que j'ai fait un don en fait, de ma propre bibliothèque bulgare en langue originelle. Il y a des exemplaires en fait de livres des pays, d'autres pays membres du Conseil de l'Europe, mais c'est pour le moment la minorité.
Oui, mais et vous ça en va avez, s'enrichir. Est-ce que vous avez fait attention à en avoir au moins un de chacun des pays?
Je ne sais pas si je peux dire ça avec une certitude. Je ne suis pas sûre que nous en avons de tous les pays.
En maltais, je ne sais pas, parce qu'ils écrivent en anglais.
Mais je peux vous confier que...
En luxembourgeois.
En lien avec mon activité professionnelle, je voyage beaucoup dans différents pays en Europe. Et chaque fois, quand je me rends dans un pays, je vais dans une librairie et j'achète des livres dans la langue originale.
Loco.
Voilà. Et l'année dernière, j'étais en Lituanie, en Estonie. Mm-hmm. Et alors, voilà, j'ai complété le fond de la bibliothèque avec des livres en lituanien et en estonien. Et c'est un peu une mission, en fait, dans ce sens-là.
Voilà. Alors, je vais faire une confidence, mais beaucoup d'amis le savent. Moi, j'ai aussi beaucoup voyagé parce que j'étais journaliste. Et chaque fois que j'allais dans une librairie, j'achetais Madame Bovary dans la traduction du pays. Et je vais sortir un livre qui va s'appeler Mesdames Bovary, qui seront les couvertures de toutes les traductions et rééditions de Madame Bovary, et si possible pas avec Isabelle Huppert, parce que là, depuis le film... et j'ai je vais vous dire, j'en ai 800, donc ça fait beaucoup, mais j'ai commencé il y a plus de 40 ans. Et donc mes copains d'Antenne 2 et d'FR 3, quand ils partaient en reportage n'importe où, ils savaient qu'il fallait qu'ils ramènent un Bovary pour Amboise, avec si possible une belle couverture rigolote. Voilà, donc pour vous dire qu'une bibliothèque, elle peut être tout à fait éclectique, internationale, et l'idée de faire ce truc sur les femmes, c'est... mais alors, quand même, Victor Hugo, par exemple, en France, on dit que c'est l'auteur le plus connu, avec Alexandre Dumas en Russie, mais c'est le livre qui est, je crois, traduit dans les 46 pays. Voilà. Est-ce qu'il y a un autre auteur? Alors, je ne sais pas, peut-être Cervantes ou Shakespeare, oui, bien sûr, mais ce n'est pas des femmes, Victor Hugo non plus. Mais est-ce qu'il y a un auteur femme qui serait... énormément traduit. Agatha Christie, peut-être ?
Certainement Agatha Christie, oui. Est-ce qu'il y a... François Sagan.
François Sagan ?
Oui. Oui, oui. Françoise Sagan, je pense qu'elle était vraiment traduite dans toutes les langues européennes. En fait, je dis ça parce que j'ai fait quelques recherches dans le cadre d'un salon littéraire qu'on avait animé, consacré à Françoise Sagan.
Bonjour Joyeuseté, bonjour Christophe.
Voilà. Non, nous, il y en a certainement d'autres, en fait, là, actuellement.
Alors moi, je pensais en
Marguerite Duras aussi doit être, en fait,
Marguerite
traduite.
Marguerite Duras, oui, et oui, moi, oui. Je pensais à Simone de Beauvoir.
Certainement.
Parce qu'il y a le côté un peu militant... La cause des femmes.
Oui, tout, je ne peux pas avoir la prétention, en fait, à vraiment énumérer, mais de temps en temps, il m'arrive justement à me pencher sur certaines autrices, et là, je commence à faire des recherches.
Ou alors le prix Nobel Annie Ernaux.
Oui.
J'imagine qu'elle a été tout de suite
elle
traduite.
D'ailleurs, je me suis amusée, en fait, pendant un an, chaque samedi, à publier sur la page Facebook de la Bibliothèque européenne des femmes des liens vers les femmes autrices qui avaient reçu le prix Nobel, en fait, avec quelques rappels justement de leur biographie, de leurs livres et de leurs discours, en fait, lors de la réception de prix Nobel. Ah. Du coup, c'était un peu aussi un travail de mémoire, en fait,
de compilation,
tout à fait. D'ailleurs, l'idée de la bibliothèque, c'est ça aussi, d'amplifier les connaissances. Vous savez, dans ma vie, c'est arrivé, en fait, souvent, de faire des liens qui ont l'air de se mettre en place de façon par hasard, mais en fait, c'est pas comme ça. Et quand je vois des liens comme ça par rapport à la Bibliothèque européenne des femmes, j'essaie de les saisir, en fait, et de les mettre en lumière. Et en fait, comme ça, les écrits des femmes savantes, des femmes de connaissances, des femmes de lettres, puissent, en fait, trouver une place plus ample, plus tangible, voilà.
Mais est-ce qu'il y a des gens qui viennent emprunter ces livres? Ou alors c'est juste entre vous, du Conseil de l'Europe?
C'est pas juste entre nous. Actuellement, la bibliothèque, physiquement, est au Conseil de l'Europe.
Et donc pour y pénétrer, c'est compliqué.
Voilà, pour des raisons de sécurité, en fait, qui sont établies par le Conseil de l'Europe, il faut avoir spécifiquement, en fait, des permissions d'autorisation, en fait, pour y entrer, ce qui n'est pas tellement difficile. Nous n'avons pas un endroit à Strasbourg, en dehors du Palais de l'Europe, pour mettre à disposition les fonds. Mais pour l'instant, nous avons mis en place un système qui est très libre d'accès, en fait. Les livres sont libres d'accès, en fait. Ils sont catalogués, mais libres d'accès à tout le monde qui veut y accéder, prendre et les remettre après.
Ah
voilà,
oui.
On fait vraiment confiance à nos lectrices, à nos lecteurs.
Voilà. Oui, c'est bien. Et donc, à la limite, vous pouvez avoir quelqu'un qui peut l'emprunter pour vous, le ramener, le ressortir
tout à fait.
Et tout. Voilà.
Tout à fait, exactement.
Ah oui, et vous avez un catalogue où vous écrivez, j'ai pris ça, je ramène.
Il a un catalogue, on fait confiance aux personnes, en fait.
Vous empruntez un livre, vous le ramenez.
Oui.
J'imagine que c'est le hasard, parce que vous regardez les bouquins qui sont là. Ah tiens, ça, je ne savais pas, je vais le prendre.
Tout à fait, et je découvre chaque jour.
Voilà,
chaque
vous découvrez. Jour. Puis du coup, vous dites, mais j'en ai un, moi, dans ma bibliothèque, et il le ramène.
Effectivement.
C'est comme ça que ça fonctionne, donc ça augmente. Alors, moi, il y a une femme que j'adore. Enfin, moi, j'adore toutes les femmes. Hein. Non, mais je voulais parler. Vive les femmes de Reiser, c'est un de mes trucs préférés. Est-ce que vous l'avez d'ailleurs, cette bande dessinée, Vive les femmes de Reiser? C'est une bande dessinée. C'est une femme qui met la main au panier à un mec.
On n'a pas beaucoup de bandes dessinées dans la bibliothèque, en fait.
Ah,
ça, c'est une dimension à explorer.
Je vais vous l'offrir. Non, mais c'est formidable.
Un grand merci.
Alors, c'est une très grande écrivain qui a vendu. C'est elle qui vendait le plus de livres après Victor Hugo au XIXe siècle. Mmh. Voilà. C'est la baronne du Devant. Mmh. Vous la connaissez?
Non, mais elle est citée là dans ce livre-là. Je ne connais pas trop l'histoire, mais voilà, avec plaisir.
Eh bien, la baronne du Devant, son vrai nom, c'est Aurore Dupin.
Voilà.
Et Aurore Dupin, c'est qui? Alors, je vais vous le dire, parce que là, vous avez... C'est le pseudonyme de Georges Sand.
Voilà, c'est ça.
Voilà, c'est Georges Sand, hein, donc un nom masculin, non pas pour se cacher, mais parce qu'elle voulait exister dans un monde d'édition qui était 100% masculin à l'époque.
Qui n'était pas possible, en fait.
Voilà, à l'époque, ce n'était pas possible. Et alors, autrement, il y avait des femmes qui écrivaient. On disait que c'était des livres pour dames, gentils, hein, avec des tout petits tirages et puis des critiques condescendantes. La jolie dame, voilà, très bien. Et alors, elle portait le pantalon, elle fumait le cigare.
Tout à fait, oui.
Elle avait plein d'amants.
Oui.
Comme ça, sa famille ne supportait pas le scandale, même si tout le monde savait qui elle était. Mmh. Et Flaubert lui-même lui écrivait comme un mec. Il lui écrivait « Cher maître », mais magnifique, avec une déférence formidable. Donc, voilà. Donc, « Vive les femmes » de Reiser, et puis tous les romans de George Sand. Voilà. Alors, Ima Dimova, pour revenir à la cérémonie du prix littéraire qui s'est passée le mois dernier au Conseil de l'Europe, vous aviez une marraine. Et c'était une femme alsacienne, strasbourgeoise, Fabienne Keller.
Tout à fait. On était très honorés. J'ouvre juste une parenthèse par rapport à en fait, ce que vous venez de dire sur George Sand, parce que lors de notre discussion l'autre jour, j'ai mentionné justement ce livre-là qui est écrit par Catherine Sauvin, qui est paru l'année dernière dans les éditions Flammarion, en fait, elle s'appelle « Ils sont elles ».«
Ils sont elles ».
Exactement. Et bien sûr, George Sand, il a tout un chapitre, en fait, consacré sur elle. Mais il en a encore, je les ai comptés ce matin pour être factuel, 45 femmes qui font objet de ce livre-là. Mais je suis sûre qu'il y en avait beaucoup d'autres parus sur les noms masculins. Surtout, en fait, des écrivaines du XVIIe et XVIIIe siècle. Et voilà, c'était une façon pour elle d'exister. Du coup, c'est important aussi, dans ce sens-là, l'existence d'une bibliothèque comme ça est importante.
D'accord. Donc, la première marraine, une femme, Fabienne Keller, est-ce que vous pouvez imaginer que l'année prochaine, enfin, je suppose que c'est tous les ans, le prix, ce soit un homme parce que, voilà... Alors, je vous raconte une anecdote. Au Parlement européen, il y a une commission de l'égalité des chances, une commission femme, comme on l'appelle.
Oui.
Et puis, il y a la règle d'Hondt, vous connaissez, donc c'est compliqué, il faut que ce soit ce pays, ce machin. Et puis, ça tombait sur la Belgique, et il n'y avait pas de femme. Eh bien, c'est un homme, Marc Tarabella, un député que j'adore, il a eu des ennuis avec le Qatar, mais ça, on n'en parle pas, qui a été le président de la commission femme. C'était la première fois depuis 1979 que la commission femme était présidée par un homme. Personne n'a fait une remarque. Il n'y a eu aucun problème. C'était formidable. C'est-à-dire qu'on n'a pas dit « Ah, c'est un homme qui préside les femmes et tout, on est moderne et tout ». Non, c'était normal. Et ça, c'est bien. Et il a fait un boulot remarquable. Bon, il était comme un coq. Mais non, c'était très bien. C'était, voilà. Donc, on peut imaginer que cette spécificité... est-ce qu'on est encore macho en 2026 ?
Alors, je me prononçais pas sur cette question-là. Je sais pas. Je vois pas l'existence de notre bibliothèque, en fait, sur cet angle-là de discrimination ou, en fait, de porter des jugements sur des comportements tels et tels, en fait, dans le monde actuel. Certainement, ils existent, mais c'est pas l'objectif de la bibliothèque. Et de notre concours littéraire. C'était la première édition de ce concours littéraire pour des nouvelles, short stories. Alors, c'est le tout début.
Vous avez eu 17 participants.
17 participants.
C'est pas mal.
Voilà. Non, pour une première édition. Et en plus, des textes venant de femmes de différents pays. Certes, on avait restreint la participation, en fait, à deux langues, anglais et français, mais pas pour une autre raison. On n'avait pas les capacités de jury, en fait, à lire dans d'autres langues pour cette édition-là. Après, par la suite, on verra. On remercie Madame Keller d'avoir accepté d'être notre première la marraine de la première édition. D'ailleurs, lors de la cérémonie, on a passé des moments très joyeux et festifs ensemble, en sa présence. Je ne suis pas du tout fermée. Je ne pense pas que les membres de l'Amicale Femmes de notre bibliothèque seront fermés à l'idée qu'un homme devient, comment on dit, parrain.
Le parrain, oui.
Voilà, oui, à une prochaine édition. Tout à fait. Il faut que la personne. Voilà, c'est pas une obligation, mais c'était un hasard. Ça peut être un hasard aussi. C'était un hasard aussi la rencontre, la proposition qui est adressée à Madame Keller. Je sais pas qu'est-ce que le futur va nous proposer comme des possibilités. Ce qui est important pour moi et pour nous, c'est que la personne croit dans les valeurs de la bibliothèque, de l'Amicale Femmes, de l'histoire de l'Amicale Femmes, qu'il y a un respect, en fait,
respect de cette identité.
Identité tout à fait européenne aussi. Voilà. Et après, pourquoi pas, d'ailleurs, à la fin de la cérémonie l'autre jour au Conseil de l'Europe, il avait avait un monsieur qui s'est adressé à moi en me demandant s'il pouvait éventuellement intégrer le jury de la deuxième édition. Je dis pourquoi pas, vous êtes bienvenue à condition que vous adhérez à nos valeurs.
Voilà, c'est ça. Et alors, est-ce que ce prix, donc le premier, il a déjà une renommée au sein du Conseil de l'Europe ?
Les
époux des femmes en ont parlé.
Je crois. Oui, ils ont parlé. Nous l'avons largement diffusé. On a eu des retours par écrit à des personnes qui travaillent au Conseil de l'Europe. D'ailleurs, la femme qui a gagné le premier prix de ce concours travaille au Conseil de l'Europe. On ne le savait pas. En fait, je la salue. Elle s'appelle Génis Neuil. Elle travaille à la Pharmacopée et au début, quand on avait reçu les textes, on a préservé en fait quelque part l'anonymat pour le jury, pour ne pas voir qui est qui. Par la suite...
Si par hasard, vous connaissiez la personne.
Voilà, le concours était accueilli, très bien accueilli au sein du Conseil de l'Europe. Je pense qu'il y a il a toutes les conditions réunies pour qu'on continue dans une belle tradition de deuxième édition, peut-être même encore plus réussie.
Alors, les trois premières nouvelles ont été... On a même lu des extraits, et vous allez les publier, vous allez en faire un livre.
Tout à fait. C'était l'idée initiale que nous allons... attribuer un prix financier, en fait, à la gagnante, et que pour les trois premières places, l'édition des textes est quelque part la récompense, en fait, de leurs efforts, parce que c'est des efforts d'écriture.
Ce sont des textes qui ont été écrits spécifiquement pour le
concours. Spécifiquement. D'ailleurs,
c'est pas des fonds de tiroir. Hein.
Oui, il en avait... Les conditions n'étaient pas du tout limitatives. À part,
oui, bien sûr.
Voilà, que la personne doit être une femme, anglais, français, et effectivement qu'il s'agit d'un texte original, pas publié. Original, pas publié. Il est prévu que le recueil avec les trois textes sort à l'automne, en septembre et en octobre. Nous allons avoir beaucoup de travail à ce niveau-là.
Oui, mais en même temps, ça fera la promotion pour le deuxième concours. Ça va inciter les gens, ça va les stimuler à écrire. Mesdames, toutes les auditrices de Radio Judaïque à Strasbourg, mettez-vous à vos plumes et envoyez au Conseil de l'Europe vos nouvelles. Alors, c'est 10 pages, 50 pages, est-ce qu'il y a une...
C'était 10 pages maximum, parce qu'il faut quand même rester dans le format de nouvelles, short story, c'est ça. Je pense qu'on va maintenir les conditions dans la deuxième édition, et officiellement, il est prévu qu'on lance la deuxième édition aussi à la rentrée, en septembre. On est déjà fait en fait la fête, maintenant on continue avec le travail.
Vite, oui. Alors, j'ai une petite idée comme ça. Contacter Catherine Lalumière, j'ai eu l'honneur de travailler avec elle au Parlement européen après qu'elle ait été la secrétaire générale du Conseil de l'Europe. Je suis sûr que, comme elle est à la retraite, elle pourrait vous écrire une petite nouvelle. Proposez-lui d'écrire sur l'histoire avec Léon Schwarzenberg, sur Sarajevo, ils ont planté des croix sur le jardin, sur la pelouse devant le Conseil de l'Europe. Une histoire absolument formidable. Bon, j'étais un peu complice, mais ça serait un bon sujet de nouvelle.
Avec grand plaisir. Je pense qu'elle avait des relations en fait proches avec certains de mes prédécesseurs en fait au sein de l'Amicale Femmes, même un engagement puisqu'il avait vrais engagements solidaires en fait à l'époque, justement pour les pays qui étaient en guerre, etc.
Elle a bousculé, j'étais journaliste à l'époque, elle a bousculé vraiment le Conseil de l'Europe, comme Martin Schulz a bousculé le Parlement européen en disant il y a un président, je reste deux fois de suite et vous allez voir que je vais m'introduire dans tous les conseils européens, j'existe, vive le Parlement européen. Elle a dit vive le Conseil de l'Europe, on n'est pas qu'un club de macramé, et elle a créé les maisons de l'Europe ensuite, enfin elle était présidente, elle a bougé, elle a fait beaucoup de choses sur les enfants, sur la jeunesse, je me souviens qu'elle avait fait des campagnes pour que sur l'éducation dans tous les pays de l'Europe, sans exclusive, même chez les méchants, hein, communistes.
Mais justement, si vous voulez, la raison d'être de cette bibliothèque, c'est ça aussi, qu'on se rappelle des engagements des femmes comme ça,
oui,
qui n'ont peut-être pas publié des livres de littérature, mais qui ont ouvert dans des publications, existent aussi en fait. La bibliothèque, elle a pour objectif aussi d'accueillir des écrits de femmes de lettres, de femmes engagées. Alors le fond se compose vraiment largement des écrits de femmes.
Voilà. Vive les femmes. C'était l'épisode numéro 154. Ina Dimova, la bibliothèque des divas. Et alors dites-moi, vous-même, est-ce que vous écrivez?
Alors... Non, je dirais pas.
Des nouvelles, des romans?
Non, j'écris des courtes phrases comme ça.
Des rapports pour...
Oui, dans le cadre professionnel, oui, et je suis assez exigeante par rapport à ça.
Oui.
Mais non, je n'ai pas cette
Non. Est-ce que vous pourriez imaginer écrire à quatre mains, par exemple, un roman avec votre mari et vous, vos enfants, comme ça?
Écrire?
Oui, écrire... Ou est-ce que vous pensez que c'est quelque chose de vraiment tout seul? Vous êtes une femme, j'écris, moi et tout. Ou alors est-ce que vous pourriez faire, je ne sais pas, comme Erckmann Chatrian, bon, ça c'était deux hommes, mais non.
Peut-être un jour un recueil avec des histoires pour raconter, par exemple, l'histoire de l'amicale femme, comment je l'ai vue, en fait, l'histoire de la bibliothèque, de sa création.
Alors, voilà. Vous faites une uchronie, vous avez 100 ans,
oui, hein,
et donc le jour de votre centenaire, parce que maintenant, avec les progrès de la médecine, vous êtes en super forme, vous arrivez en vélo au Conseil de l'Europe, et vous avez écrit un livre sur l'histoire, sur les 60 ans de la bibliothèque des femmes. Voilà, ça pourrait être un beau
sujet. Il faut dire qu'il avait quelques débuts journalistiques, hein, dans ma vie. Et alors, même au sein de l'Amicale Femme, nous avons édité un magazine.
On ne sait jamais tout sur les femmes, sur les hommes non plus. Non. Vous l'avez bien connu, tous les mardis à 11h30 sur Radio Judaïque à Strasbourg et le dimanche à midi. La semaine prochaine, un homme, un vrai, qui sent bon le sable chaud. Enfin, c'est un voyageur, photographe, Benoît Linden, et qui préfère, je crois, l'asphalte de la ville au sable du désert. Vous l'avez bien connu à la technique, Thomas Marinelli, et mon nom est Ambroise Perrin.